VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent début de journée en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Michel Joseph en ce lundi de Pâques. Bonjour Michel.
Bonjour.
À la une de notre émission ce matin.
Les opposants congolais ne désarment pas face à Denis Sassou Nguesso. Ils appellent à des journées villes mortes dès mardi.
Les populations n'ont pas à s'inquiéter de la présence policière. C'est expressément que nous avons renforcé cette présence.
À Kinshasa, la majorité présidentielle remporte de nombreux postes de gouverneur.
Arrestation au Mali de deux suspects liés à l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire.
Au Bénin, le président sortant Thomas Yayi Boni affirme n'avoir jamais perçu de salaire durant ses 10 ans à la tête du pays. Une annonce qui laisse perplexe à Cotonou.
Comment on peut assurer une fonction sans avoir un salaire ? La deuxième question, de quoi a-t-on vécu pendant ces 10 ans ?
Le monde toujours sous le choc, 24 heures après le carnage de Lahore au Pakistan. Un attentat suicide contre les chrétiens a fait au moins 65 morts.
Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le journal des sports. Les éliminatoires pour la CAN 2017 se poursuivent. Le Bénin a le sourire, le Tchad déclare forfait et sera suspendu jusqu'en 2019. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Au Gabon, l'un des principaux partis de l'opposition, l'Union nationale, réunie en congrès, a décidé de ne pas investir de candidat à la prochaine élection présidentielle face à Ali Bongo Ondimba. Le président gabonais sortant est soupçonné par ce parti de verrouiller le scrutin et surtout de ne pas être gabonais de source, comme exigé par la Constitution.
Cinq candidats appellent à contester pacifiquement la réélection de Denis Sassou Nguesso au Congo. Ils ont appelé à une opération ville morte à partir de demain dans tout le pays pour contester la réélection du président sortant qui a déjà passé 32 ans au pouvoir. Dans une déclaration commune, les cinq opposants engagent le peuple congolais à exercer pleinement sa souveraineté sur sa victoire démocratique à travers des actions reconnues par la loi, villes mortes et autres grèves, meetings et marches pacifiques jusqu'au respect du verdict des urnes.
Au Mali, deux suspects clés ont été arrêtés dans deux opérations distinctes en relation avec la récente attaque terroriste de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Ibrahim Ould Mohamed a été arrêté près de Tombouctou alors que Midi Ag Sodak Diko a été interpellé au sud de la ville de Gao.
Actualité malienne encore pour vous signaler que s'ouvre aujourd'hui le forum de Kidal et ce sans la participation de la plateforme et du gouvernement malien. La CMA reste déterminée à organiser cette rencontre sans les deux autres parties. Les explications de notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
Le forum de Kidal s'ouvre ce lundi 28 mars au lieu du 27. La CMA et la plateforme s'étaient donné la main pour la bonne organisation de cette rencontre avec la participation du gouvernement. Mais à la dernière minute, l'idée de ne pas inviter le gouvernement proposé par la CMA n'a pas été acceptée par la plateforme. Pour la plateforme, le forum devrait être une occasion pour faciliter le retour de l'administration à Kidal, l'armée et certaines structures étatiques. La CMA ne voit pas les choses de cette manière. Elle a pris acte de la requête verbale du gouvernement pour un report du forum, mais dit avoir regretté cette demande qui a été notifiée tardivement. C'est pourquoi la CMA a poursuivi avec l'organisation du forum aux dates indiquées. Aux dernières nouvelles, une délégation de la plateforme est arrivée à Kidal, avec à leur tête un officier malien, pour voir comment un terrain d'entente peut être trouvé. En tout cas, les délégués de la plateforme étaient toujours bloqués à Gao, le temps de voir clair dans cette situation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle a gagné 14 postes de gouverneur de nouvelles provinces issues du démembrement. Et selon les résultats provisoires publiés par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Dans la province du Sud Ubangi, l'élection du gouverneur n'a pas été organisée conformément à une décision de justice. Au Nord Ubangi, la candidature de la majorité est contrainte à un second tour.
Controverse au Bénin suite à l'annonce hier selon laquelle le président sortant Thomas Yayi Boni n'aurait jamais perçu de salaire durant ses 10 ans à la tête du pays. Un compte-rendu du Conseil des ministres du 26 mars précise que le chef de l'État béninois n'a pas non plus perçu diverses indemnités liées à son poste et qu'il a rendu compte de sa gestion d'un fonds secret de 150 millions de francs CFA prévu par la Constitution. Timothée Nongmaï a joint le président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption au Bénin. Jean-Baptiste Elias ne cache pas son étonnement.
Il y a lieu de se poser des questions. La première question, comment on peut assurer une fonction sans avoir un salaire? La deuxième question, de quoi a-t-on vécu pendant ces 10 ans? La troisième question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, n'est-ce pas, derrière cette idée de percevoir d'une manière autre que l'officiel des subsides ou bien de l'argent que l'on ne sait pas exactement d'où cela provient? Ce qui est certain, c'est que nous, organisation de la société civile, nous allons demander à la prise de service du nouveau président le 6 mars prochain que l'audit se fasse au niveau des ressources allouées à la présidence de la République pour savoir si éventuellement il y avait une ressource qui était allouée et qui servait donc au président de la République de pouvoir vivre si tant est que un salaire officiel ne lui est pas donné.
Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption du Bénin.
Nouvelle polémique entre Bujumbura et Kigali. En cause, le texte signé Pascal Nyabenda, le président du CNDD-FDD, le parti au pouvoir burundais. Ce dernier accuse le Rwanda de chercher à exporter le génocide. Le laboratoire du génocide est au Rwanda, car le président Kagame, l'ayant expérimenté chez lui, veut l'exporter au Burundi pour jouer au petit impérialiste, affirme le document. On rappelle que le Burundi est plongé depuis près d'un an dans une violente crise qui a fait plus de 400 morts et 250 000 réfugiés, pardon, dont 75 000 au Rwanda. Faut-il s'inquiéter de la nouvelle hausse de tension entre Kigali et Bujumbura? Timothée Donangmaï a posé la question à Fabien Sichayaro, professeur.
Dans notre histoire, il y a toujours eu des passes d'armes comme ça entre le Burundi et le Rwanda. Ceux qui sont dans certains âges se rappellent, par exemple, de l'empoignade entre Michombero et Kayibanda par les radios nationales interposées. Mais bon, ça n'a pas eu vraiment de conséquences. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Vous savez, les jumeaux, surtout les faux jumeaux comme le Rwanda et le Burundi, ont toujours des raisons de se chicaner, comme on dit ici au Québec. Mais bon, disons que dans l'état actuel de relations entre les deux pays, même si évidemment il y a un froid entre les deux, ça ne va pas avoir de conséquences.
Ainsi, Chayayo, professeur de communication à l'Université de Montréal.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au moins 65 morts et près de 350 blessés. C'est le bilan provisoire du carnage qui a eu lieu hier à Lahore, au Pakistan. Un attentat suicide a frappé un parc d'attractions de cette grande ville de l'Est du Pakistan, alors que des chrétiens célébraient les fêtes de Pâques. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Revendiquant la responsabilité de l'attaque, un porte-parole de Jamaatul Ahrar, faction des talibans pakistanais, a affirmé que l'attaque visait spécifiquement les chrétiens. Selon des témoins, le parc était bondé et plusieurs familles chrétiennes effectuant une sortie à l'occasion de la Pâque s'y trouvaient au moment de l'explosion. La plupart des victimes sont des enfants et des femmes parce que le kamikaze s'est fait exploser près de l'aire de jeu pour enfants, a déclaré à l'AFP un haut responsable administratif de la ville de Lahore. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a condamné cet attentat et a reçu un appel de son homologue indien Narendra Modi, exprimant sa sympathie. La jeune lauréate pakistanaise du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, s'est dite, pour sa part, accablée par cette tuerie dénuée de sens. Les États-Unis ont condamné de leur côté, dans les termes les plus fermes, l'attaque de Lahore, un effroyable acte terroriste, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.
Attentat de Bruxelles. Le département d'État a confirmé hier soir la mort de 2 autres Américains. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Nous pouvons confirmer la mort de 2 citoyens américains supplémentaires à Bruxelles et nous exprimons nos plus profondes condoléances à leurs proches, a déclaré à plusieurs agences de presse un représentant du département d'État. Au total, les attentats suicides de Bruxelles à l'aéroport et dans le métro ont fait au moins 31 morts et 340 blessés, selon le dernier bilan des autorités belges. Hier, les hommages aux victimes des attentats ont été perturbés par des manifestants nationalistes à Bruxelles. La police anti-émeute a fait usage de canons à eau pour disperser 300 manifestants vêtus de Noirs qui ont lancé des slogans virulents envers le groupe djihadiste État islamique qui a revendiqué les attaques. Pendant ce temps, 13 nouvelles perquisitions ont été menées dimanche à Bruxelles et dans le nord de la Belgique et 4 personnes placées en garde à vue selon le parquet fédéral. Les enquêteurs tentent toujours de confirmer si le seul suspect inculpé en lien direct avec les attaques djihadistes de mardi, Faisal Chefou, est bien, comme il le pense, l'homme au chapeau qui a déposé une bombe n'ayant pas explosé à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Aucune date de réouverture n'a été annoncée pour l'instant, mais l'aéroport subira demain des tests pour vérifier le bon fonctionnement des infrastructures temporaires installées après les destructions causées par les deux kamikazes.
Voilà, c'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Tout de suite, place à la Minute Éco, présentée ce matin par Timothée Donogmaï.
Ouverture jeudi à Yaoundé de la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, le SIARC, qui devrait accueillir jusqu'au 9 avril près de 2000 exposants venant du monde entier. Le thème de cette rencontre biennale, l'artisanat camerounais face aux défis de la mondialisation et de la compétitivité. Préservation de l'environnement, les autorités de Madagascar ont saisi plusieurs kilos de corail noir lors de 2 opérations dans le pays. Environ 50 kg de corail prisés pour les bijoux et les sculptures ont été découverts à Tuléar dans le sud du pays, a indiqué à l'AFP le ministère de la Pêche. Surnommé bois de rose de mer et menacé d'extinction, le corail noir se vend en fonction de sa qualité entre 36 et 120 euros le kilo. Enfin, la chaîne de télévision Al Jazeera, propriété du gouvernement du Qatar, va supprimer 500 postes, une décision liée au déclin des revenus pétroliers. L'annonce faite dimanche précise que les licenciements affecteront en grande partie le personnel du siège à Doha. Lancée en 1996, la chaîne qatari a annoncé en début d'année la fermeture d'Al Jazeera Amérique, 3 ans après son ouverture.
Merci Timothée pour cette Minute Éco. Nous retrouvons tout de suite les sports. Grosse actualité football hier avec le début de la 4e journée des qualifications pour la CAN 2017 sur le continent africain. Dans le groupe H, le Ghana, finaliste de la précédente édition, a été accroché par le Mozambique 0-0 et devra patienter pour valider son ticket pour le Gabon. Dans le groupe E, la Guinée-Bissau a pris la tête du classement grâce à sa victoire 1-0 au Kenya, lanterne rouge. Les deux leaders du groupe, jusqu'alors le Congo et la Zambie, n'ont en effet pu se départager hier. 1-0. Ils comptent désormais 6 points, soit 1 point de moins que la Guinée-Bissau. A noter que le match entre le Kenya et la Guinée-Bissau a été brièvement interrompu par des heurts avec les supporters. Les violences ont éclaté à la 83e minute au Nyayo National Stadium après le but de la Guinée-Bissau. Des supporters kényans, considérant que le ballon n'avait pas franchi la ligne, ont lancé des fumigènes et des feux d'artifice, puis envahi la pelouse. Le Kenya risque donc une sanction de la CAF après ces violences. Autre résultat, le Botswana a battu les Comores de 1 et le Bénin a étrié le Soudan du Sud, 4-1. Le Bénin prend provisoirement la tête du groupe C en attendant ce lundi le match entre la Guinée équatoriale et le Mali. Compte rendu au Bénin de notre correspondant Élisée Ongpatine.
Poussé par son public, le Bénin s'est offert le Soudan du Sud grâce à sa ligne offensive et le doublé de son capitaine Stéphane Sessayon. Les écureuils étaient déjà allés gagner jeudi à Djouba. Du coup, le bilan de cette double confrontation contre cette sélection soudanaise est idéal pour le sélectionneur Ouma Tchomogo, particulièrement satisfait de la victoire de Cotonou.
Je suis vraiment fier de ce que mon équipe a produit aujourd'hui. J'ai eu vraiment un grand match. J'ai mis une tactique en place. Il y a eu beaucoup de choses dont j'étais sûr et aujourd'hui je suis reconforté. Je pense que le bilan est plus que positif. Notre programme c'était 6 points ou rien, donc je pense qu'on l'atteint aujourd'hui. Le plus dur reste à venir, mais je ne m'inquiète pas parce que j'ai un bon groupe, on a le même objectif et je pense qu'on peut aller plus loin.
Les écureuils s'emparent donc de la première place de ce groupe avec 1 point de plus que le Mali qui joue ce lundi à Malabo contre la Guinée équatoriale. Élisée Wumpatin, Cotonou, VOA Afrique.
Mauvaise nouvelle pour le Tchad qui déclare forfait pour ses éliminatoires de la CAN 2017. Les Sao devaient affronter la Tanzanie ce lundi, mais la fédération tchadienne parle d'indisponibilité financière. Conséquence, la Confédération africaine a suspendu le Tchad jusqu'à la prochaine édition de la compétition, soit jusqu'en 2019. Et puis bravo ce matin aux jeunes joueuses camerounaises. Pour la première fois de leur histoire, les moins de 17 ans se qualifient pour la Coupe du Monde de la catégorie en Jordanie. En compagnie du Ghana et du Nigeria, les jeunes Camerounaises ont battu l'Égypte samedi 4-0. Et puis comme d'habitude, la NBA, le championnat de basket nord-américain, les Los Angeles Clippers ont décroché hier leur billet pour les playoffs grâce à leur victoire devant Denver 105-90. Les Clippers, qui n'ont jamais remporté le titre suprême, disputeront la phase finale du championnat NBA pour la 5e saison consécutive. Houston chute à Indiana 101-104. Golden State domine Philadelphie 117-105. Voilà, c'est tout pour cette page des sports sur VOA Afrique. Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, le monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Première escale à Brazzaville, où l'incertitude politique demeure après la proclamation de la victoire du président sortant, Denis Sassou Nguesso. Beaucoup ont prié pour la paix alors que la police était bien visible dans la capitale congolaise en ce week-end de Pâques. Reportage de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Congo, la deuxième confession religieuse du pays après les catholiques, les fidèles jurent que par la paix de Jésus-Christ.
Une personne ne peut pas donner la paix, c'est seul Dieu qui peut donner la paix. Le possesseur de la paix, c'est seul Dieu. Comme aujourd'hui, il nous donne cette paix.
Mais ça, c'est un dénominateur commun. Personne ne veut les tribus ou quoi, chacun veut vivre en paix et par conséquent, prier pour le pays, ça c'est tout le monde qui le fait et on le fait avec bonne foi parce que nous avons besoin de la paix.
Le pasteur Muller Mouyi, voyant la foule qui a participé au culte de ce dimanche, est convaincu que la peur n'habite plus les populations.
Nous sommes autour de 1300 fidèles, et ce qui traduit déjà une espèce d'espérance. Donc je pense que les gens essaient de dissiper la peur, ça va. Ben oui, mais justement, ce que nous demandons à Dieu, nous l'avons toujours su le faire. C'est que le Congo puisse vivre dans la paix. Ce que le peuple congolais veut, c'est la paix.
Même son retour à la paroisse catholique Saint-Michel Ngangouni, que Jésus garantisse la paix.
En ce moment, vraiment, on en a besoin. Et vraiment, après le message, après la semaine de Pâques, vraiment, on n'a plus peur. On sait qu'il est avec nous. Il combat, il va combattre pour nous. Et nous gardons le silence tout en priant.
À l'armée du salut, le pasteur n'a eu qu'un seul message ce dimanche à l'endroit de ses filles.
Nous prions pour que la paix continue de régner, mais sinon sans la paix, comment venons-nous au culte? Chacun sera chez soi. Il y aura peu de gens, mais vous avez vu ce moment-là. Ça veut dire que les gens, même si de façon hésitante, mais ils sont là. Nous avons prié pour la paix et nous continuons à prier pour la paix.
Bien que menaçante et parfois agressive sur le moindre attroupement ou début de réunion, la police appelle la population à vaquer librement à ses occupations. Le colonel Jules Mukalachumu, porte-parole de la police congolaise.
Les populations n'ont pas à s'inquiéter de la présence policière. C'est expressément que nous avons renforcé cette présence effectivement pour protéger les populations contre les forces hostiles qui peuvent constituer un danger pour cette population.
Demain mardi, les 5 candidats contestataires appellent à une journée ville morte sur l'ensemble du pays. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, les 4 leaders des organisations de la société civile arrêtés la semaine dernière sous mandat de dépôt du procureur de la République sont toujours en prison. Les partis politiques de l'opposition ont tenté de se constituer prisonniers ce week-end sans succès. Ils ont été bloqués aux portes de la maison d'arrêt, comme l'a constaté le correspondant de VOA Afrique au Tchad, André Kodmajingar.
Cette vive altercation entre les responsables de la maison d'arrêt et une vingtaine des partis politiques de l'opposition démocratique à l'entrée de la maison d'arrêt d'Amsinene ce samedi a duré environ une heure. Parmi ces personnalités politiques figurent ceux qui sont engagés dans la course pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Le directeur de l'administration pénitentiaire Adam Guett tente de calmer ses leaders politiques qui ont décidé unanimement de se constituer eux-mêmes prisonniers en solidarité de ces quatre activistes des droits de l'homme incarcérés.
Dans l'administration pénitentiaire, quelqu'un sans mandat de dépôt m'a passé par une institution de la police judiciaire. Nous, la loi nous interdit de prendre quelqu'un sans mandat de dépôt. Nous, on a 1600 détenus ici. Ne sommes pas des troubles à ce que les autres profitent derrière vous pour commettre des bêtises.
Le porte-parole de ces leaders rejette cette proposition et durcit sa position. Aladoum Djarma Baltazar.
Nous sommes ici là. C'est pas pour avoir de problème avec vous. La maison d'arrêt là, beaucoup de... Moi, personnellement, je suis déjà passé par ici. Nous sommes venus là. Allez, restez avec nous. Comme vous, vous n'êtes pas habilité à nous faire entrer comme ça. Ceux qui signent le papier pour amener les gens ici là, vous collaborez avec eux, non? Vous leur dites que les gens sont là, c'est tout.
Après 4 heures de tractation avec les agents du service de sécurité et prenant acte de la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire qui s'engage à les mettre en contact avec le médiateur et le procureur de la République, ces leaders politiques ont décidé de quitter le lieu. Aladoum Djarma Baltazar se dit satisfait de cette action, même si l'objectif principal n'est pas atteint.
L'objet, c'est d'arriver à établir le dialogue. Nous avons mis en marche notre stratégie. Ce n'est qu'un premier pas. Nous avons réussi à mettre en difficulté les forces de l'ordre, en même temps le personnel de la maison d'arrêt. Nous nous sommes dit que nous nous constituons prisonniers après 24 heures de la date du 25. Aujourd'hui, nous sommes venus. Nous n'avons pas pu, c'est vrai, mais rien ne dit que demain on le pourra. Si on rencontre le procureur, on rencontre aussi le médiateur, et que cela ne nous donne pas satisfaction, on serait obligé de passer à la vitesse supérieure de notre exigence. Même s'il faut pousser les gens à la faute, on va les pousser, ils finiront par nous garder.
La journée du lundi étant fériée, l'Union des syndicats du Tchad et le Syndicat national des travailleurs des affaires sociales et de la santé du Tchad entendent observer une grève sèche sur toute l'étendue du territoire à partir de ce mardi 29 mars si les quatre leaders arrêtés ne sont pas libérés. La coalition Ça suffit, quant à elle, décale sa marche pacifique prévue pour le 29 mars au 5 avril prochain. André Kodoma Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
VOA Afrique, Ndjamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Et nous en parlions dans le journal. Arrivée à Bamako ce week-end du deuxième convoi des Maliens rapatriés de Libye. Ils sont 146, dont 17 femmes, 36 enfants, accueillis par les agents de la protection civile qui les ont conduits au camp de Sokoniko. Beaucoup racontent avoir été maltraités par différents groupes et demandent au gouvernement malien de tout faire pour rapatrier ceux qui sont restés en Libye. Voici le reportage de Kassim Traoré, le correspondant de VOA Afrique à Bamako.
Parmi les 146 Maliens rapatriés de la Libye, il y a 17 femmes et 36 enfants. Tous parlent de traitements physiques dégradants de la part des différents groupes armés qui se mettent dans les villes libyennes.
Je m'appelle Youssouf Kanté, je suis de Kaye, je suis parti en Libye. Le système qui est là-bas, les gens, la première chose, ils ne nous aiment pas. Noirs là, black, les Arabes n'aiment pas les blacks. On est là-bas seulement pour t'entêter pour rien. On se casse, même pour aller faire achat aux boutiques, tu te casses. Crédit, tu te casses. Comment tu peux travailler? Même si les gens viennent t'appeler pour aller travailler, là, tu as peur. Peut-être qu'ils vont aller t'apprendre pour aller envoyer en prison.
Les rescapés qualifient la Libye de jungle, avec des cas d'arbitraire dont plusieurs jeunes qui travaillent ont été victimes.
Je m'appelle Djibril Menta. Donc, on n'a qu'à tout faire. Les gens qui sont là-bas maintenant, pour qu'ils soient libérés, pour retourner au pays. On n'a qu'à tout faire pour cela. Donc, je donne cet appel à tout dans notre pays.
Dans le lot des rapatriés, il y a des Touaregs et les Arabes qualifiés de terroristes. Les femmes ne sont pas épargnées par cette situation.
Là-bas, là, on est en prison même pas. On ne peut pas sortir, on ne peut pas promenade, on ne peut pas aller même à la boutique ici. Ils sont trouvés, ils vont t'attraper. Nous, les Noirs, là, ils n'aiment pas de nous.
C'était difficile. On était à Ben Oulid, à 200 km à Tripoli. Celui qu'on trouve là-bas, il n'a pas les papiers, ils disent qu'il est terroriste. Comme terroriste d'âge. Moi, on les prend et puis on les garde.
Pour Youssouf Kanté, bon nombre de Maliens, surtout les femmes, ont été prises en otage. Certaines sont mortes, d'autres sont introuvables.
D'abord, il y a des gens même qui ne peuvent même pas savoir leur endroit. Parce que tout le monde, pas les camps, hein, il prend un village seulement, donc il va aller emprisonner les gens là-bas.
Les gens en otage.
Donc tu vas chercher dans toutes les prisons, tu ne les vois pas. Il y a des gens qui sont morts là-bas comme ça. Même les femmes, femmes avec leurs enfants, on les fait descendre dans le taxi pour aller les emprisonner, pour les vendre encore l'argent. Et on n'a qu'à oublier d'aller toujours à l'exil.
Heureusement que dès leur arrivée au Mali, ils sont bien accueillis et conduits à la caserne de la protection civile. Les 146 Maliens recensés sont pris en charge par le gouvernement jusqu'à ce qu'ils retrouvent leurs parents. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Cameroun, de nombreux appels, notamment des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Ils demandent au président Paul Biya d'organiser une élection présidentielle anticipée avant 2018. Des appels qui divisent et suscitent l'indignation de l'opposition. John Lyndon s'est entretenu avec Célestin Bedzigui, vice-président de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès.
C'est une curiosité dans la mesure où le terme actuel du mandat de M. Biya lui permet de se pouvoir jusqu'en 2018 et nous voyons surgir un peu partout des appels à ce qu'il se représente, des appels émis par les organes de base de son parti. On se rend bien compte que derrière cela, il y a une intention, c'est celle d'organiser une élection présidentielle anticipée. Ce qui n'est pas prévu par la Constitution.
Justement, est-ce que la Constitution actuelle permet une interruption de mandat? Si oui, dans quelles conditions?
Non, justement. La Constitution actuelle, d'ailleurs, cela est normal, dans les régimes présidentialistes comme celui du Cameroun, il n'y a que trois cas d'interruption de mandat. Ce serait soit le décès du président, soit sa démission, soit son incapacité constatée par le Conseil constitutionnel. Or, à l'heure actuelle, si M. Biya veut organiser une élection anticipée pour pouvoir en fait rallonger le terme de son mandat, de sa durée au pouvoir, il est obligé de passer par une modification de la Constitution qui prévoira donc une possibilité de modifier d'interrompre le mandat pour des raisons politiciennes, ce qui est tout à fait inacceptable parce que cela violerait le principe de l'intangibilité de la Constitution.
Alors, avec une majorité à l'Assemblée nationale, si le président Biya venait à changer à nouveau la Constitution, c'est clair qu'il obtiendra ce changement et dans ce cas, que peut une opposition camerounaise qu'on dit divisée et même émoussée?
Je pense que la voie qui s'imposera pour l'opposition camerounaise, pour qu'elle garde sa crédibilité et surtout pour qu'elle soit garante du respect de la Constitution, cette voie-là est unique. C'est un boycott. Un tel boycott priverait M. Biya de la légitimité. Donc, tu peux se prévaloir au terme d'une élection présidentielle.
Alors, quelle fin politique voyez-vous pour le président Biya? Une fin telle que celle de Blaise Compaoré ou celle de Boni Yayi?
Je pense que nous sommes beaucoup plus proches d'un schéma ou d'un processus à la Burkinabé, c'est-à-dire où un chef d'État essaie de s'accrocher au pouvoir.
Monsieur Bedzigui, qu'elle soit anticipée ou qu'elle soit maintenue en 2018, serez-vous candidat à une élection présidentielle au Cameroun?
D'ici le terme normal, nous aurons le temps de réfléchir, mais en cas d'anticipation, nous allons être du temps du boycott.
Célestin Bedzigui, vice-président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et peace avec cette musique de Justin Bieber qui chante Love Yourself. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up,
And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
Voilà, Justin Bieber, Love Yourself sur VOA Afrique. Ainsi va le monde aujourd'hui. Notre émission touche à sa fin. La mise en onde était assurée par Michel Joseph, Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, on va saluer Youssouf Ba qui est à Conakry et Boris Manzangou à Gemena en République démocratique du Congo. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook, déjà plus d'1 million de fans. Merci beaucoup. Et notre site internet voafrique.com.